Le journal
avec MCM,
présenté par Antoine Samoyo.
Bonjour Antoine Samoyo, les titres.
Bonjour Alexandre, bonjour à tous. Météo France a fait le point ce matin sur les prévisions pour la saison cyclonique à venir. Une saison 2015-2016 qui se présente assez mal puisque le risque d'être touché par un cyclone est supérieur à 90% pour la Polynésie. Pour en parler ce midi, nous recevrons Victoire Laurent, chef de la division climatologie, responsable de la prévision saisonnière au bureau de Météo France. L'ancien directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation, Aldo Tialao, a été jugé ce matin devant la cour d'appel pour tentative d'escroquerie. Il avait été condamné à 4 mois de sursis pour avoir réalisé une fausse attestation dans le cadre de son activité. Vous l'entendrez, l'avocat général a requis une peine plus lourde ce matin. Enfin, nous parlerons des championnats du monde de kayak en deuxième partie de journal. Avant les mondiaux qui se dérouleront à Tahiti les 2 et 3 octobre, ce week-end, les athlètes polynésiens s'affronteront pour un tournoi qualificatif. A tout de suite.
Et on démarre avec de bien mauvaises nouvelles pour la saison des cyclones à venir.
Météo France, je vous le disais, a présenté ce matin au commissariat le bilan de la saison cyclonique 2014-2015, mais surtout les prévisions pour la saison à venir. Une saison qui s'annonce agitée. Le risque de cyclone est de 90% pour la Polynésie. C'est ce qu'a annoncé Météo France ce matin. Alors pour en parler, je reçois ce midi Victoire Laurent. Victoire Laurent, vous êtes chef de la division climatologie, responsable de la prévision saisonnière au bureau de Météo France. Bonjour.
Bonjour.
Alors, quelles sont les prévisions très exactes pour cette saison des cyclones qui s'annonce?
Alors, si on parle d'activité cyclonique, donc Météo France a pris le choix en termes de prévision d'activité cyclonique d'annoncer un risque de 90% d'avoir au moins un événement sur toute la Polynésie française. Alors, ce risque est surtout présent et toujours prévu pour le mois de novembre, voire même le mois de décembre. Et cette activité cyclonique, le risque, on va dire, va un peu perdre de son intensité en deuxième partie de saison chaude.
Alors, qu'est-ce qu'on appelle la saison cyclonique? Ça commence quand? Ça se termine quand exactement? Et à l'intérieur de cette période, vous le disiez tout à l'heure, il y a une période plus intense, en fait.
Alors, climatologiquement, la saison cyclonique commence au mois de novembre et se termine au mois d'avril. Mais ça n'exclut pas qu'un phénomène cyclonique peut naître vers la fin du mois d'octobre, ce qui a été le cas pour Martin en 97, qui est né le 31 octobre. Mais donc, cette période cyclonique, elle est surtout intense climatologiquement au mois de février. Mais aujourd'hui, on est en train de vivre un El Niño d'une forte intensité et tous les mois sont concernés. Aucun mois n'est privilégié dans notre prévision de l'activité cyclonique.
Alors, ça veut dire donc de novembre à avril, il faudra faire plus attention.
De novembre à avril, il faudra faire attention. Par contre, effectivement, en termes de par rapport au risque, on a annoncé les 90%. Tous les ingrédients, aussi bien les ingrédients au niveau de l'océan qu'au niveau de l'atmosphère, sont présents, pour notamment au mois de novembre. Donc, ce qui est intéressant, c'est que à partir du moment où l'activité cyclonique se déclenche, puisqu'un cyclone, son rôle est de refroidir l'océan, le réservoir d'eau chaude va diminuer. Donc, effectivement, ça va un peu diminuer les ingrédients pour la formation des cyclones. Donc, c'est novembre et décembre qui sont les plus à surveiller, notamment parce que c'est là où le phénomène El Niño va être mature et prévu être mature. Et donc, c'est là où le maximum du réservoir d'eau chaude qui est lié justement à ce phénomène El Niño sera présent sur la zone.
Alors, ça veut dire qu'on a la quasi-certitude, en fait, d'avoir un cyclone pendant cette saison. On entend cyclone et dépression.
Alors, souvent les gens font l'amalgame, mais en fait, quand on parle de cyclone, il faut dire que c'était déjà avant une dépression. Donc, le phénomène avant de devenir cyclone est d'abord dépression. Après, il s'intensifie. Donc, l'intensification se calcule par rapport aux vents moyens qui sont mesurés. Et quand les vents moyens de cette dépression atteint 118 km/h, donc on dit que la dépression est passée au stade de cyclone. Mais quand on parle de cyclone, c'est la même chose. Hein. C'est pas la même chose. C'est-à-dire qu'avant, il était déjà dépression tropicale.
Alors, qu'est-ce qu'il en est sur les précipitations exactement? Est-ce que on s'attend à une période, justement, une saison des pluies qui va être particulièrement intense?
Alors, pour la saison des pluies, au vu des éléments qu'on a aujourd'hui le 24 septembre, c'est que les précipitations seront plus importantes au niveau de l'archipel des Marquises et elles seront moins importantes au niveau des Australes et de l'archipel de la Société. Là, on a vraiment un schéma classique d'un phénomène El Niño avec de fortes précipitations sur les Marquises et des précipitations moindres sur les Australes.
Alors sortons un peu du volet prévision. Quelles mesures de précaution dès à présent il faut prendre justement en attente de cette saison qui s'annonce agitée?
Alors les mesures de précaution sont surtout gérées par le Haut Commissariat. Alors dès à présent le Haut Commissariat invite la population à consulter son site. Sur son site il y a un petit film qui est assez pédagogique sur les précautions à prendre lorsque un cyclone ou une alerte cyclonique est annoncée sur la Polynésie française. Et également il y a des brochures qui permet qui donnent les informations nécessaires à la population à prendre, donc des mesures à prendre avant l'arrivée du cyclone, pendant l'arrivée du cyclone et après le passage du cyclone. Donc c'est vraiment le Haut Commissariat et la Protection civile qui chapeaute en fait cette partie d'alerte et de précautions et des mesures à prendre envers vers la population.
Des mesures de prévention que vous retrouverez également sur notre site www.radio1.pf. Victoire Laurent, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation ce midi. Nous reviendrons vers vous évidemment régulièrement dans les prochaines semaines sur ce sujet brûlant.
Justice à présent avec l'ancien directeur du SPIP qui s'est de nouveau retrouvé devant les juges ce matin.
Ancien directeur du SPIP et président du mouvement des passeurs d'avenir, Aldo Tielao comparaissait ce matin devant la cour d'appel pour complicité de tentative d'escroquerie à un jugement. Le directeur du SPIP avait réalisé une fausse attestation pour couvrir les absences d'un de ses amis, un professeur qui enseignait à Nutania, et ainsi lui permettre d'encaisser des salaires pour un travail qu'il n'avait pas fourni. Aldo Tielao avait été condamné à 4 mois de prison avec sursis par le tribunal correctionnel en février dernier. Mais ce matin en appel, l'avocat général a requis 6 mois de prison avec sursis et une interdiction d'exercer en Polynésie. Le délibéré sera connu dans les prochaines semaines.
Une bonne nouvelle à présent, le prix du gaz va baisser.
Le compte-rendu du Conseil des ministres d'hier fait apparaître une baisse de 10 francs par kilo de butane. Une baisse qui sera effective à partir du 1er octobre, dans quelques jours donc. Le prix maximal de vente d'une bouteille de 13 kilos de gaz passe donc de 2964 francs à 2834 francs. Et pour une bouteille de 39 kilos, il vous en coûtera 8502 francs et 10 900 pour une bouteille de 50 kilos.
Cette information Radio 1 maintenant, le chargé de mission de l'État sur le foncier en Polynésie jette l'éponge.
Le magistrat honoraire Pierre Moyer avait été mandaté par la ministre de la Justice en mars 2015 pour présider un groupe de travail sur le foncier en Polynésie. Le groupe de travail était, je cite, chargé de proposer des modifications de fond afin d'apporter une réponse mieux adaptée aux spécificités de la Polynésie pour traiter des affaires de terre. Eh bien, c'est une exclusivité Radio 1. Il y a quelques jours, le président du groupe de travail a jeté l'éponge et annoncé sa démission à la garde des Sceaux. Dans un mail adressé lundi à son groupe de travail que Radio 1 s'est procuré, le magistrat dénonce d'une part les retards pris dans ses travaux suite au manque de réponse de la présidence de la Polynésie. Il annonce sa décision de démissionner suite au refus par le président Edouard Fritsch de voir des avocats ou des universitaires composer son groupe de travail. Autre grief, le pays souhaitait selon lui limiter le périmètre de son intervention.
Il est midi 9, nous allons marquer une courte pause dans ce journal, suite du développement de l'actualité dans un instant.
Premier sur l'info.
On reprend ce journal pour parler du plan climat présenté hier par le pays.
Le président Edouard Fritsch, le haut-commissaire, les ministres du président et le président de l'Assemblée ont assisté hier à la restitution des travaux du plan climat-énergie. L'événement était organisé à la présidence. Un plan très ambitieux qui s'articule autour de 7 axes d'intervention, 15 orientations et 28 fiches actions. Le président Edouard Fritsch veut du concret. Il en appelle à la responsabilité collective en affirmant que nous sommes un des plus gros producteur de gaz carbonique. Écoutez-le au micro de Vaïté Ourari Pambrin.
La nouvelle idée qui est développée au travers de l'exposé d'aujourd'hui, c'est qu'effectivement, chacun doit participer à faire des économies d'énergie, à ne plus brûler trop de CO2, parce que, en fin de compte, nous, Polynésiens, qui avons l'impression d'être dans un pays non pollué, ben nous sommes un des plus gros producteurs de gaz carbonique au monde. Il y a une prise de conscience, il y a des choses comme ça que l'on découvre, et grâce à ces recherches, à ces études, mais d'où cette proposition du jeune Téva, et que nous ne réussirons que si nous nous donnons tous la même discipline et nous allions tous dans le même sens.
Et force est de constater que de nombreuses préconisations de ce plan climat-énergie ressemblent à celles du plan climat stratégique de 2012. Une ressemblance qui n'étonne pas le ministre de l'Environnement, Hirimoana Mamatou Yahutapu, qui assume cette adaptation du plan du gouvernement Temaru.
Nous relançons le schéma directeur des déchets qui a 15 ans. Donc en 15 ans, les solutions qui étaient préconisées aujourd'hui ont évolué. Et il faut aller voir aussi déjà ce qui a été fait dans nos îles, plutôt que d'aller voir à San Diego, à Aix-en-Provence. Les solutions, elles sont peut-être déjà chez nous.
Dans une des préconisations, il est stipulé de mettre en place des critères pour attribuer des aides à la construction et à la rénovation des habitats. Qu'en est-il aujourd'hui?
Ben oui, un exemple simple. Quand on parle d'arrêter les curages des rivières, la plupart des gens qui manifestent contre les rivières construisent en dur. Nous, on veut arrêter l'écurage, mais il faut réduire notre consommation d'agrégats et trouver d'autres solutions. Il y a aussi le bois qui est en PPN.
C'est le tragique.
Oui, c'est déjà une première étape. Par rapport à ça, il va falloir trouver certainement d'autres axes pour la construction écologique.
Fadréo, vous venez de préconiser la construction en bois. Est-ce que dans un avenir proche, on va voir le bois baisser?
Ça fait partie des projets que l'on a. Un certain nombre d'actions sont en cours. Mais c'est vrai que ça prend un peu de temps. On a beaucoup de projets qui sortent à gauche, à droite. Il n'y a pas de coordination. On a l'impression que les choses se font parce qu'il faut les faire. Nous, on dit il faut peut-être un peu plus de concertation et il faut surtout que ces projets correspondent aussi à un programme beaucoup plus global.
En tout cas, cette fois-ci, pour éviter que les 28 fiches actions ne tombent dans l'oubli et que l'on refasse un nouveau plan dès l'année prochaine, le haut-commissaire a proposé la mise en place de réunions pour s'assurer que les actions préconisées soient mises en œuvre.
Je me suis évertué de dire, le plan climat, ça doit déboucher sur, au fond, demain, on construit comment? Est-ce qu'on construit avec les mêmes matériaux? Est-ce qu'on construit au même endroit? Est-ce qu'on fait des abris de survie? Si oui, à quel endroit? Etc. Il y a toute une série de questions qui sont extrêmement concrètes pour les populations auxquelles doit répondre ce plan climat. Il ne faut pas que ça reste pour elles, je parle des populations, un concept éthéré auquel n'aurait jamais accès.
En gros, c'est un peu les préconisations qui sont sorties du plan climat stratégique en 2011. On a l'impression que il y a plein de blabla et puis finalement les actions, il y en a très peu.
Ben, si vous voulez, déjà à l'époque, on avait conscience quand même des difficultés dues au réchauffement climatique. Donc j'imagine que les groupes de travail, puisqu'il y a eu des ateliers qui ont réuni 122 personnes, ont quand même pris en compte ce qui avait été fait. Il ne s'agit pas de refaire le fil à couper le beurre à chaque fois. Et donc, prise en compte de cela, plus toutes les connaissances nouvelles qui ont eu lieu entre 2012 et 2015.
Donc l'année prochaine, on ne va pas nous ressortir un énième plan et puis après avec plein de préconisations.
Non, moi ce que je crois, c'est qu'une fois qu'un plan est fait, il ne s'agit pas d'en refaire un, il s'agit d'appliquer ce qui est dit, et notamment les 28 fiches actions. Ce qui serait bien, c'est qu'on ait régulièrement des réunions pour s'assurer que les actions qui sont préconisées sont mises en œuvre. Voilà, pas à pas, c'est modeste pour certaines fiches, mais au moins ça le mérite d'être concret et de parler à la population.
Antoine, peux-tu me permettre une remarque? Ça fait plus d'un mois et demi que je fais ce journal avec vous, et je me rends compte qu'on est sans doute le pays au monde où il y a le plus de coqs qui chantent pendant les interviews.
Il y en a sur le terrain, effectivement, des coqs.
On parle sport à présent avec le kayak local qui se prépare pour les mondiaux de Tahiti.
Et pour la première fois, la Polynésie organise le second championnat du monde d'Ocean Racing, le kayak de haute mer. Ce sera les 2 et 3 octobre prochains. Le comité organisateur local espère que la réussite sera au rendez-vous pour ce premier événement de la jeune fédération tahitienne de kayak. Et pour le président de la fédération tahitienne, Charles Villiarme, l'organisation de ces championnats du monde est à la fois un challenge pour la fédération internationale et pour celle de Tahiti. On l'écoute au micro de Valentine Bluet.
Eh bien, la monture, c'est deux objectifs. Et premièrement, développer le sport du kayak et de l'ocean racing ici en Polynésie française. Et secondo, de tirer vers nous, le bassin pacifique, une compétition de ce gabarit. Parce qu'en principe, tous les championnats du monde se passent plutôt en Europe. Alors, aujourd'hui, ils ont vraiment accepté de venir ici parce que c'était un challenge aussi pour la fédération internationale. Il faut savoir qu'il y a 187 pays qui sont membres de cette fédération internationale. Et donc, c'était un peu aussi un challenge pour voir si, oui ou non, des petits pays insulaires sont capables d'organiser un événement de ce type.
Et le président de la fédération qui souligne les opportunités que représente cette compétition pour les sportifs locaux et notamment pour les jeunes.
Pour nos jeunes du pays, c'est un peu un pont pour passer du local à, par exemple, rentrer dans les crêpes en France pour pouvoir faire une carrière comme éducateur sportif, comme Gordon l'a fait. Aujourd'hui, il est éducateur national du deuxième degré parce qu'il était champion du disque. Et il a fait partie de l'équipe France et c'est ce débouché-là. C'est ça un peu l'objectif. Pas un peu, c'est ça l'objectif de la fédération aujourd'hui. C'est de sortir nos jeunes de cette, on peut dire, de cette jeunesse aujourd'hui qui est vraiment, qui dérape vraiment, essayer de les sortir et puis de les ramener dans le droit chemin.
Je vous le disais, la compétition s'ouvrira le 2 octobre avec la course des femmes. Parité pleine et entière, le nombre d'athlètes et les distances parcourues seront les mêmes. Soit un départ de Hitiaotera à 11h pour une arrivée à l'hôtel Tahiti Pearl Beach Resort vers 14h. La course hommes se déroulera samedi 3 octobre. Sachez en tout cas que les athlètes internationaux arriveront à partir du 25 septembre. Pour l'heure, un seul d'entre eux est déjà sur le territoire. C'est le Sud-Africain numéro 1 mondial en 2014, Jasper Mocker. Écoutez-le.
Oui, je connais quelques athlètes tahitiens. Comme je l'ai dit, nous n'avons pas fait beaucoup de compétitions contre eux. Donc vous savez, il faut que je les surveille parce que l'on ne sait pas à quoi s'attendre.
Et vous avez peur d'eux ?
J'ai peur de tout le monde, vous savez. Enfin, je n'ai pas peur, mais je ne prends rien pour acquis. Pour la compétition, je pense surtout à moi et à faire la meilleure course que je peux. Et si quelqu'un fait une meilleure course, tant mieux pour lui, mais moi je ferai du mieux que je peux.
Les Tahitiens n'ont pas à rougir face aux internationaux. L'espoir Hiromana Flores s'est classé 8e mondial de la World Series 2014 et numéro 1 mondial au premier championnat du monde d'Ocean Racing en 2013 au Portugal. Les fans de la discipline auront même le loisir et le plaisir de retrouver la star locale du kayak, Lewis Loughlin. En attendant, il est 12h17.